Bonsoir à tous. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Michaël Bouffard, qui est donc docteur en histoire de l'art à l'Université de Montréal. Vous avez obtenu notamment donc, la bourse d'excellence du Canada pour les sciences humaines, période pendant laquelle vous vous êtes spécialisé dans l'iconographie du geste dans l'Europe des 17e et 18e siècles. Vous avez été ensuite pendant 3 ans invité au centre, au centre André Chastel de la Sorbonne, ce qui vous a permis de développer une expertise dans le domaine de l'iconographie des spectacles et de la danse, puis ensuite à la Bibliothèque nationale de France pendant 1 an. Vous êtes actuellement chercheur associé au Centre de musique baroque de Versailles et vous co-animez à la Sorbonne un atelier d'archéologie expérimentale sur le jeu corporel à l'époque de Molière. Enfin, vous préparez actuellement une exposition au Louvre en tant que co-commissaire sur les dessins de costumes de scène du règne de François Ier à celui de Louis XIV. Voilà. On est ravis de vous accueillir ce soir et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup.
Merci à vous. Le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est « Le bonheur et la bonne grâce, une histoire culturelle des gestes et postures de l'aristocratie française ». C'est, si je puis dire, une partie de la thèse que j'ai présentée déjà en 2013 et qui malheureusement n'est toujours pas publiée et qui traite justement de la figure aristocratique dans l'art, dans le portrait, les vues de jardin, etc., mais aussi dans d'autres genres où on s'attend moins à retrouver le code aristocratique en jeu, comme dans la pastorale par exemple ou la peinture d'histoire. Comment entrer en matière, vous vous rappelez peut-être de cette vue de jardin, de portail qui était exposée à l'exposition justement de fête et divertissement, qui représente un groupe d'aristocrates dans un jardin, s'adonnant à la conversation. En regardant un dessin comme celui-ci, vous avez certainement déjà ressenti le fameux je ne sais quoi, donc cette impression impossible à cerner devant l'artificialité mais aussi la beauté de ces postures qu'on trouve, nous, gens du XXIe siècle, étranges sans pouvoir dire pourquoi. Mais au XVIIe et au XVIIIe siècle, on qualifiait aussi de je ne sais quoi ce bonheur et cette bonne grâce que l'on percevait chez l'aristocrate européen, mais plus encore chez l'aristocrate français qui en était le modèle. Or, il n'était rien de moins secret, rien de moins codifié, rien de moins enseigné que ce bonheur qui n'est rien d'autre au fond qu'un synonyme, pur synonyme de bonne grâce. La preuve, c'est que les artistes ont été capables de l'observer et de le représenter et donc ont dû s'obliger eux aussi à savoir ce qu'était ce fameux je ne sais quoi. Les attitudes que vous voyez à l'écran n'auront plus de secret pour vous, donc d'ici la fin de la conférence, je l'espère. Le je ne sais quoi. Le je ne sais quoi, en effet, est un doux mensonge, c'est plutôt le je sais très bien. Pour le comprendre, il faut remonter aux origines, au texte fondateur de la civilité de la sociabilité au XVIe siècle. Pour prendre l'exemple du livre du Parfait courtisan de Baltasar Castiglione, qui a été imprimé la première fois en 1528. On retrouve ce préjugé qui veut que la noblesse soit pourvue, dit-il, de dons naturels, qu'elle ait de la grâce, dit-il, par nature, et tout au long de l'ouvrage, pour lui, la grâce est un don du ciel. Donc, un don en voulant dire qu'elle est innée pour tout noble. Malgré cela, il ne peut s'empêcher d'écrire à un autre endroit. Et je cite, « Bien que l'on dise presque en proverbe que la grâce ne s'apprend point, je dirais que celui qui voudra avoir de la grâce dans les exercices corporels, en supposant d'abord que par nature il n'y soit point impropre et malhabile, doit commencer de bonne heure et apprendre les principes des meilleurs maîtres. En somme, la grâce est innée à la noblesse, mais elle doit malgré tout s'acquérir. » C'est ce qu'un historien hollandais, Herman Rodenburg, a qualifié de paradoxe de Castiglione. Paradoxe qui va teinter pendant plus de 250 années la littérature sur l'incivilité, les bonnes manières, et auxquelles n'échapperont pas les roturiers qui auront pour mission d'enseigner à la noblesse à paraître noblement. Certains, comme l'abbé du Bosc en 1634, dans son traité « L'honnête femme », fournit un bel exemple de ce paradoxe, ou de cette incohérence, si vous préférez, qu'on retrouve ici. Néanmoins, quoique la naissance y contribue beaucoup, et que la force de la bonne grâce se ressente bien mieux qu'elle ne s'exprime, il faut avouer néanmoins qu'on peut en donner quelques règles afin de la rendre plus parfaite. Ce lieu commun est tellement ancré qu'on le retrouve juste dans les contes de Charles Perrault, comme ici dans sa Cendrillon. La beauté pour le sexe est un rare trésor, de l'admirer jamais on ne se lasse. Mais ce qu'on nomme bonne grâce est sans prix et vaut mieux encore. C'est ce qu'à Cendrillon fit avoir sa marraine, en la dressant, en l'instruisant, tant et si bien qu'elle en fit une reine. Car ainsi sur ce conte on va moralisant, belle ce don vaut mieux que d'être bien coiffée, pour engager un cœur, pour en venir à bout. La bonne grâce est le vrai don des fées. Sans elle on ne peut rien, avec elle on peut tout. Les passages qui sont mis en rouge, vous voyez comme en la dressant, en l'instruisant, c'est bien qu'elle lui a, le mot dresser est quand même fort, donc elle lui a appris quelque chose, et le est un don des fées. On revient sur ce lieu commun de la grâce, qui est un don du ciel qu'on retrouve chez Castiglione, martelé plusieurs fois. Et ce paradoxe explique Hermann Rothenberg, c'est une manière de rendre la bonne grâce inaccessible, c'est-à-dire de faire croire qu'elle ne peut s'apprendre, et donc que c'est une marque de distinction qui est innée. Mais évidemment, chez les initiés, on sait très bien comment il faut s'y prendre. Pour entrer en matière sur justement les règles de base de la bonne grâce, il faut savoir qu'il y en a sept qui permettent d'échapper au trop peu de manières, qui est la rusticité, donc c'est distinguer du vulgaire, mais sans tomber dans l'excès de manières, qui est l'affectation. C'est l'affectation du petit maître, l'affectation du marquis, etc., dont Molière s'est beaucoup amusé. C'est cette règle fondamentale, et je vous mets ici une gravure allemande de frontispice, c'est un tout petit détail, qui vous permet de voir comment ce code français s'est propagé d'une part, mais aussi il est contrasté justement avec la rusticité. Vous avez la grâce et la rusticité qui s'affrontent en opposant les sept règles que je vais vous détailler. Donc ces sept règles sont unisexes, s'appliquent tant aux hommes qu'aux femmes. Et la première de celles-ci est d'avoir la tête haute, ou la tête droite, mais souvent on utilise l'expression de la tête haute. Donc, c'est-à-dire jamais penché. Et on retrouve déjà au XVIe siècle ce préjugé très, très ancré, par exemple chez Erasme de Rotterdam, qui a écrit La civilité ibérique, qui est aussi un des ouvrages qui a beaucoup influencé la littérature des bonnes manières par la suite, et où on dit que, en reprenant Quintilien, la position de la tête trahit la nature de l'âme. Et ce lieu commun, qui est un préjugé, au fond, va encore persister au XVIIIe siècle. Et dans un traité de maintien, on dira qu'une femme qui tient sa tête droite, tient sa tête en avant, pourra être jugée comme étant timide, trop en arrière, hautaine, sur le côté droit comme indolente, sur le côté gauche comme ayant des pensées impures, etc. Parce que le côté gauche, c'est le côté du cœur. Et donc on croit encore, on s'oblige à croire que la tête, la position de la tête représente finalement la vertu. Et si on n'y croit pas, on pense quand même qu'on peut être jugé sur ces apparences-là. Cela dit, on peut tourner la tête à gauche et à droite, ça c'est un autre problème sur lequel on reviendra. La deuxième règle, c'est d'avoir les épaules basses et en arrière. Et non pas simplement en arrière, parce que vous voyez, ça donne ça. Il faut les avoir en arrière et basses. Donc tout de suite, vous voyez que ça donne plus d'importance à la poitrine. Donc ça dégage une plus grande assurance. Ensuite, la troisième règle est d'avoir la poitrine en avant et large. Les coudes de la quatrième, maxime, est d'avoir les coudes détachés de la taille. Il n'y a rien qui, presque rien qui est, comment dire, qui paraît plus gauche à l'époque que d'avoir les coudes attachés à la taille. D'une part parce que ça diminue l'amplitude du geste, et d'autre part, c'est que le coude cache, notamment avec les engageants qui se soutiennent, cache la courbe du corps baleiné. Et on adore, comme les photographes d'aujourd'hui, le jour qui passe entre le haut du bras et la taille. Donc, ce qui crée un contraste, qui met en valeur cette courbe qu'on essaie de valoriser par tous les moyens, toutes les structures qui sont sous les jupes et les corsets et les poils et les corps à baleine, évidemment. Cinquième règle, le ventre rentré et le postérieur aussi. Ça c'est une des choses qui dure assez longtemps, du 17e au 18e siècle. La sixième règle, les hanches droites sous le tronc, donc sans déhanchement. Et quand je dis sans déhanchement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir le poids sur un pied, au contraire. C'est même qu'on favorise le fait d'avoir le poids sur le pied derrière ou également sur les deux. Mais bon, l'important c'est de ne pas se déhancher en ayant le poids sur l'une des deux jambes. Et la dernière, la septième règle est d'avoir la pointe des orteils tournée en dehors. Ça c'est une règle, en fait c'est une caractéristique de l'exercice corporel aristocratique qui commence au début du XVIe siècle. En France, en Hollande, en Angleterre, déjà, c'est une règle qui est passée dans l'usage en 1610, ça c'est sûr, donc un peu avant. Mais on voit dans des traités de la fin du XVIe siècle qu'il y a des débats. En Italie, on dit que ça fait affecter de faire comme si on pointait comme une girouette qui pointe dans la direction de deux vents différents. Tandis que certains disent que bon, certains tournent la pointe du pied en dehors, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas obligatoire. Donc il y a plusieurs opinions en se tournant au tournant de ces deux siècles, mais qui vont en 1610, être répandu presque partout, sauf en Italie et sauf en Espagne. C'est une règle qui ne passera pas avant l'arrivée des Bourbons. Donc voilà. Et c'est une manière de paraître noble. Et tellement qu'on a, un jésuite qui dit que c'est une abomination que de paraître avec la pointe des pieds parallèle. Donc, et pour ce qui est de l'ouverture, justement, à quel degré on doit tourner les orteils, il y a toutes sortes de querelles entre les maîtres à danser, surtout au 18e. Mais bon, pour le 17e, généralement, on s'en tient à l'angle droit, c'est-à-dire qu'on forme un triangle rectangle avec ses deux pieds, qu'on les sépare ou qu'on les assemble. Et plus on avance dans le 18e, plus on autorise aussi à les ouvrir un peu plus que 90 degrés. Donc, mais c'est quand même le 90 degrés continue jusqu'à la Révolution. Mais on se permet, il est acceptable d'ouvrir un peu plus les pieds. Donc voici pour les sept règles. J'avais un exemple d'un peintre suédois qui a beaucoup travaillé, qui s'est marié en France et qui nous montre très bien ce que j'entends par les épaules basses et en arrière. C'est la peinture qui le rend le plus clair. Et vous voyez comment ça met en valeur la verticalité aussi de la tête. Le fait de reculer les épaules, ça donne beaucoup d'assises au reste du corps. Le contraire d'avoir les épaules en arrière, c'est d'avoir les épaules en avant ou élevées, ce qui fait paraître soit stupide, si on les tient trop haut, ou lâche ou mal élevé, si on les tient par devant. Pour ce qui est de... Et pour ce qui est de ces sept règles-là, j'ai un exemple très intéressant du comte Wilhelm Bending, qui en 1633 écrivait à sa fiancée, donc ils n'étaient pas encore mariés, sa fiancée qui était comtesse de Hanenburg, Charlotte-Sophie, et je cite en français ici ce qu'il lui écrivait avant, quelques temps avant le mariage. « Ayez les épaules basses et en arrière, tournez les jambes en dehors, serrez les fesses, ayez la tête haute et libre, la poitrine haute et en avant. Pourquoi est-ce qu'il écrit ça? C'est qu'en fait, il avait un problème de colonne vertébrale. Donc, ce n'était pas du tout de sa faute, ni du manque de volonté. La pauvre Charlotte Sophie, donc, n'avait pas la grâce nécessaire et donc pouvait mal incarner son statut d'aristocrate. Il y a certaines personnes qui même ont fait opérer leurs enfants qui avaient un défaut parce qu'un pied ne souffrait pas suffisamment quand c'était des raisons, quand ça relevait de la naissance, justement, il y avait même, on pensait que c'était la seule manière de permettre à quelqu'un de pouvoir fréquenter les milieux et apparaître noblement. Pour revenir à la règle, la septième règle, celle de l'ouverture des pieds, j'ai trouvé, j'ai une amie restauratrice qui m'a envoyé cet exemple assez intéressant. Comme je vous disais, les jésuites décrivaient ceci comme une abomination. Vous avez à gauche, non, vous avez à droite, le tableau restauré avec les pieds du Christ, donc c'est la résurrection de Lazare, tableau français de la seconde moitié du 15e siècle, et vous avez le Christ qui... l'ouverture des pieds, le concept de l'ouverture des pieds n'était pas encore arrivé en Europe à cette époque, et donc le Christ est simplement représenté avec les pieds presque parallèles. Et ça les choquait tellement qu'ils ont fait un repas qui datait de la fin du XVIIe siècle, où ils ont retourné les pieds du Christ dans la bonne direction, parce que pour eux, pour plusieurs, c'était impensable d'avoir de représenter le Sauveur finalement dans une position abominable, dans une position qui contredit la noblesse. Et donc grâce à cette restauration où ce repas du 17e a été enlevé, on peut voir les bienséances ici agir sur des peintures anciennes. Enfin, on corrige la posture du Christ comme elle devrait être, alors qu'elle a été peinte, cette posture, à une époque où il n'y avait aucun problème à marcher les pieds parallèles, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Pour l'application de ces sept règles ne suffit pas, ni des gestes qui doivent accompagner ces différentes postures, parce qu'encore faut-il les faire paraître naturelles, donc par une longue et difficile appropriation. Pour ce faire, donc, il faut commencer jeune, il faut avoir les meilleurs maîtres, et il faut imiter les meilleurs exemples. C'est ce qu'on disait aussi des peintres et des artistes, si vous voulez être excellent le jour, de commencer jeune, d'avoir des bons professeurs, et puis d'imiter l'Antiquité et l'Italie de la Renaissance. Pour ce qui est de l'éducation proprement dite, comment se déroulait donc cet apprentissage de la grâce, du bonheur et de la bonne grâce? Tout d'abord, c'est un maître à danser, donc un maître à danser qui venait apprendre aux enfants dès l'âge de 4 voire de 6 ans les rudiments du maintien, et ce de 3 à 4 fois par semaine. Et même les précepteurs jansénistes, qui condamnaient férocement la danse figurée, acceptaient que le maître à danser vienne surveiller, parce qu'on craignait aussi que le maître à danser pouvait débaucher. Donc le maître à danser vienne enseigner à leur pupille les rudiments du maintien gracieux. C'est tout dire, si les jansénistes même ne pouvaient s'en passer, c'était bien que c'était fondamental. Donc cet apprentissage s'incarnait par des exercices. Donc ici, on a une très jolie porcelaine de 1760 qui montre un des exercices les plus répandus en Europe pour l'apprentissage de l'en dehors. Donc c'est le maître à danser qui, étant assis ou debout, hein, ça varie selon les pays, selon les maîtres à danser, pousse avec son pied la pointe de son élève pour, en lui tenant les mains, parce qu'il ne faut pas perdre l'équilibre, en fait c'est un peu comme la barre en fait, pour la danse classique, c'est le même principe. Et on pousse, le maître pousse son pied contre celui de l'élève jusqu'à temps qu'elle ait la bonne ouverture, voire un peu plus. Parce qu'on dit que comme la branche, il faut la tendre un peu plus loin pour qu'elle revienne au bon angle. Et donc ici, et après généralement, après avoir fait ça, on pliait sous soi plusieurs fois, et puis on pouvait même, basculer le buste vers l'arrière, ce qui ouvre automatiquement les hanches. Parce qu'un des problèmes qu'on qu'on avait remarqué à l'époque, c'est que les enfants tournaient les pieds en dehors, mais pas les genoux ni les hanches, ce qui causait des problèmes assez dommageables. Et donc il faut vraiment que ce mouvement d'en dehors procède de la hanche, ce qu'on enseigne aujourd'hui encore en danse classique. Et donc, pour ceux qui n'ont pas commencé à cet âge tendre, il fallait prendre des séances de rattrapage si on voulait paraître à Versailles, par exemple. Il fallait donc aller chez le maître avancé, et c'est Saint-Simon qui raconte souvent beaucoup de choses, comme vous le savez, et qui parle de l'abbé de Saint-Aignan de cette manière. L'abbé de Saint-Aignan parut en parfait séminariste. Jamais rien de si gauche, de si plat, de si béat. Je proposais au duc de Beauvilliers de lui donner un maître à danser pour lui apprendre au moins à faire la révérence et à entrer dans une chambre. Vous savez, c'est l'époque où la poignée de main est réservée à certaines sectes calvinistes. Je ne parle pas de la poignée de main pour conclure un marché, ni le fait de se donner les mains pour un mariage. Ça, c'est encore autre chose, c'est la conclusion d'une alliance. Mais le geste de se donner les mains comme salutation va se développer justement en Hollande, va migrer en Angleterre, puis aux États-Unis, avec les Quakers et avec d'autres sectes protestantes de cette époque, et parce que la révérence ne doit être adressée qu'à Dieu. Donc c'est sous ce principe-là, donc la poignée de main est une salutation d'égalité, et ça va prendre, il faut attendre le 19e siècle, vraiment pour que ce signe de salutation vraiment se répande de manière plus ou moins uniforme. Quand on n'a pas la poignée de main, qu'est-ce qu'on fait pour se saluer? Qu'est-ce qu'un peintre fait pour saluer son commanditaire? Qu'est-ce qu'un rubanier fait pour saluer son client? Une révérence. Mais la révérence est très très complexe. Je vous donne un exemple, la révérence en arrière, suivie de la révérence en avant, qui est une révérence assez formelle quand on entre dans un appartement. C'est exactement ce qu'il décrit. Donc, on marche d'une quatrième position à l'autre. Je vais aller sur le côté, pour ceux qui... c'est difficile de voir, il faudrait que je monte sur une estrade. Donc, on marche d'une quatrième position à l'autre, on glisse le pied à la quatrième position devant en balançant le corps, on passe le pied à la première, puis à la deuxième en posant le talon en premier, on plie encore, et en se relevant seulement, et simultanément, on glisse la pointe du pied derrière qui va finir en troisième position. Et quand je parle des troisièmes positions, ce sont les positions de la danse qui sont réutilisées par ces mêmes maîtres dansés pour enseigner les révérences, parce que c'est un système clair et pédagogique, didactique. Ces positions, vous voyez, ça c'est que la révérence en entrant dans un appartement. Mais vous avez aussi les révérences en arrière, les honnêtetés, vous avez, et selon les situations, si on marche dans un jardin, si on est dans un appartement, il y a toutes sortes de règles qu'il faut respecter, comment on manie le château. Donc c'est autant de règles très très complexes et qui demandent beaucoup beaucoup de répétitions. Certains maîtres dansés disaient d'ailleurs que profitez de votre période au collège pour faire la révérence à vos amis à chaque fois que vous les voyez, à vos maîtres. Donc, parce que si vous la faites mal à ce moment-là, c'est pas grave. C'est plutôt après, quand vous serez dans le monde, quand vous aurez fait votre entrée dans le monde, que vous devez la maîtriser parfaitement, et il n'y a rien comme la répétition pour y arriver. Pourquoi les maîtres à danser enseignaient-ils la posture? Ça nous paraît un peu étrange aujourd'hui quand même. Pourquoi il n'y avait pas des maîtres de maintien comme il y en a eu au 19e siècle? C'est parce que ces maîtres à danser étaient considérés comme les spécialistes de la grâce corporelle, soit en dansant, soit en ne dansant pas. Ces maîtres à danser étaient chargés de tous les aspects techniques des bonnes manières. Et même tellement qu'à la fin du 18e siècle, les maîtres à danser sont même chargés d'apprendre comment il faut tenir une cuillère, par exemple, avec combien de doigts, comment il faut la poser avec grâce, comment il faut la prendre avec grâce. Donc c'est tout dit. Ceux qui concevaient donc leur responsabilité, les maîtres à danser concevaient leur responsabilité pédagogique en deux parties. La danse poétique d'une part. La danse poétique, en fait, c'est la danse en musique, sur un rythme qui est comme le vers, donc cadencé. Donc cette danse poétique, elle est pour le bal, mais aussi elle est enseignée, la danse théâtrale est aussi enseignée. En fait, les aristocrates apprenaient des entrées de théâtre aussi dans leur éducation. Au XVIIe, vous savez qu'ils ont même dansé sur scène énormément, même au début du règne de Louis XV. En fait, quand, sous la Régence, Louis XV a dansé, des jeunes aristocrates aussi. Ils ont redansé comme au temps de Louis XIV. Cette danse va rester comme danse d'exercice même jusqu'à la fin du XVIIIe. On va continuer à apprendre les cabrioles, les entrechats, même si c'est pour les utiliser qu'en classe, parce que c'était une agilité qui après profitait. Donc il y avait cette danse poétique et il y avait la danse prosaïque, ou la danse en prose. Donc c'est une danse qui n'a pas de cadence, pas de métrique, qui est un peu ce que les sociologues d'aujourd'hui appelleraient une improvisation organisée. Qu'est-ce que la danse prosaïque? En fait, il y a quatre matières. La première, c'est la posture, assise ou debout. La deuxième, c'est la marche. La troisième, c'est les révérences. Et la quatrième, c'est le maniement des objets. Maniement des objets, je pense au tricorne, à l'éventail, tendre un livre, tendre un petit objet, prendre une fleur, etc. Donc, c'est les quatre, leçons de la danse en prose. Donc, pour revenir sur les méthodes d'inculcation, vous avez ici un maître à danser qui montre à une jeune fille comment tenir ses jupes, c'est-à-dire entre le pouce et l'index, en ayant le pouce devant, et les trois autres doigts doivent servir d'ornement à la main, puisque si on est assez habile, on n'a besoin que de deux doigts pour tenir une jupe. Et donc c'est pour le menuet, en fait, la danse du menuet est une danse sans bras pour la femme, en fait elle tient que ses jupes pendant toute la danse, contrairement à l'homme. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on va soulever sa jupe en montant un escalier, par exemple. Donc la technique ne change pas. Et donc vous voyez que le maître à danser utilise son juste au corps pour montrer comment faire. Donc la première méthode d'incorporation, c'est la démonstration. Donc, comme vous voyez dans cette image, accompagnée d'injonctions, c'est-à-dire tenez-vous droit, tournez la pointe du pied en dehors, ce qu'on trouve chez Bourgeois Gentilhomme d'ailleurs, la scène du maître danser. La correction par modelage, la deuxième méthode, c'est par exemple pour apprendre à une jeune fille ou à un jeune garçon à tenir sa tête droite, le maître danser applique son pouce sur le menton et exerce une pression qui permet à l'enfant de savoir quand est-ce que la position est adaptée. Donc, et pareillement, va placer les pieds, va placer les mains pour faire les gestes. Donc c'était vraiment la technique du modelage. Pour la marche, il va tenir par les mains aussi son élève pour lui servir un peu de barre, une sorte de barre non fixe qui permet de garder l'équilibre dans la marche. Donc voilà, et la troisième, c'est l'exercice répété. Donc ils insistent beaucoup sur la répétition comme méthode d'incorporation. Par exemple, pour apprendre les cinq positions dont je vous ai parlé, un des premiers exercices, c'est soit d'être avec le maître à danser comme vous l'avez vu tout à l'heure, soit de commencer avec la première position, de plier, relever, monter sur demi-pointe, redescendre les talons, replier, remonter, monter encore sur la demi-pointe, etc. Pendant 6 minutes par position. Après, vous faites la deuxième, plier, relever, etc. Et donc, à chaque séance, on répète jusqu'à temps que les positions soient bien ancrées et bien stables. La quatrième, c'est l'usage des vêtements. Le corps baleiné était sculpté de telle manière qu'il renvoyait les épaules en arrière et basses. Il permettait aussi de rentrer le ventre plus facilement. Donc ça, c'était vraiment, il était aussi conçu pour tenir la taille droite, etc. Sinon, il y avait les patrons des justes au corps, qui eux aussi, ces patrons renvoient les épaules en arrière, ce qui permet à celui qui le porte de savoir s'il est dans une bonne position ou pas. Si le vêtement est dérangé ou tire, on sait qu'on n'est pas dans la bonne position, donc il faut s'adapter au moule du vêtement. La cinquième, ce sont les accessoires orthopédiques. comme la croix de fer, le hauskol, ou certains un peu moins violents, comme le ruban de soie. Le ruban de soie est un ruban qu'on attache à une coiffe de jeune fille et qu'on attache à son corps baleiné derrière. Et qui fait que si elle penche la tête, la corde va tirer. Et généralement, le défaut des enfants, comme ce qu'ils disaient à l'époque, hein, c'est que justement la timidité leur faisait baisser la tête. Et comme on voulait leur donner de l'assurance, qui est synonyme de noblesse, c'était un moyen, donc ils ne pouvaient pas parce que le ruban était trop court. Voilà. Et sinon, il y avait aussi des corps baleinés en cuir. On commençait chez le nourrisson, comme ici dans l'orthopédie, pour développer l'en dehors dès la naissance. On ajoute un petit coussin en forme de cœur qui place les bébés en première position et qui permet de les emmailloter et de leur donner plus facilement en dehors quand ils seront plus vieux. Sixième, les machines orthopédiques. Donc voici le tourne-pied. Il y a toute la description dans le traité du maintien pour la construire chez soi et qui permet on place les pieds des enfants à partir de 11 ans. C'est-à-dire si à partir de 11 ans, ils n'ont pas réussi à adopter l'en dehors, il faut utiliser ces machines drastiques donc qui leur permettent de tenir les pieds en place pendant autant de temps qu'on veut. Et on n'en a trouvé qu'une seule, qui est anglaise et qui servait aux acteurs qui devaient eux aussi avoir un en dehors sur scène. Donc, mais c'est exactement la même machine, vous voyez, avec les chevilles et les trous qui permettent d'ouvrir plus ou moins les pieds. Et généralement, on fixe la machine de plus en plus, comment dire, de plus en plus, avec plus en plus d'ouverture, jusqu'à temps qu'on ait une ouverture parfaite. Et une autre des méthodes, la huitième, c'est d'intérioriser par le dessin. Vous savez certainement que le dessin était partie de l'éducation aristocratique. Et ici, on a des exemples, justement, qui permettent à une jeune fille, en l'occurrence, en copiant ces gestes-là, de les intégrer et de mieux les comprendre. On demandait aux acteurs de faire la même chose, d'apprendre le dessin pour savoir comment bâtir leur figure en étant sur scène. Et ici, un exemple pour le garçon, on voit la manière de tenir le tricorne, donc qui peut être incorporé de cette façon. Et la sixième, c'est de travailler seul devant un miroir, parce que le miroir est le conseiller silencieux. Et puis la neuvième, qui est la dernière, c'est de faire un grand tour, surtout pour les étrangers, en fait, allemand, anglais. Un passage à Paris était obligé, et même généralement c'était l'occasion de voir les maîtres à danser qui étaient célèbres. À Paris, c'était le grand Marcel au XVIIIe siècle, d'ailleurs dont Rousseau s'est beaucoup moqué, il y en avait dans toutes les capitales d'Europe. Donc certains Anglais, par exemple, faisaient la tournée des maîtres à danser, mais aussi la fréquentation des cercles raffinés permettait, par imitation des pères, d'adopter plus de grâce. Donc, et tout ceci devait se faire avec la plus grande pédagogie, donc en récompensant et en louant les enfants, en les reprenant avec douceur et jamais de façon violente, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les traités, parce que en les effrayant, on leur donne de la raideur et on leur enlève de l'assurance. Et c'est exactement tout le contraire de ce qu'on recherche. Donc il faut surtout éviter ça, et puis leur inspirer le dégoût pour les mauvaises postures. Et donc, ça encore, les jésuites aimaient bien, par exemple, dans les traités d'action scénique, commencer, figure 1, la posture qu'il ne faut pas adopter. Ou sinon, dans les traités d'escrime aussi, j'avais vu un maître d'escrime qui disait il faut caricaturer ses élèves pour les dégoûter bien de leurs défauts, en les exagérant. Et ce dégoût-là devrait être suffisant pour finalement leur donner la motivation nécessaire pour apprendre les bonnes positions. Il faut savoir que la grâce, le bonheur, la bonne grâce se décline en trois espèces, si je puis dire. La grâce modeste, la grâce majestueuse et la grâce familière, donc qui sont des noms qu'on leur donne à l'époque. Donc la grâce familière est aussi appelée belle air, par opposition à bonne air. On y reviendra plus longuement. Mais généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que la grâce modeste s'applique à ceux qui sont dans la hiérarchie inférieure, dans une, dépendamment de qui est dans la salle, et tandis que le code de la grâce majestueuse s'applique quand on est entre égaux ou qu'on est supérieur aux autres dans la salle. Et il faut dire que quand même, malgré tout, la grâce modeste est a priori demandée aux femmes, excepté si on a une reine, par exemple, elle peut jouer sur ce code-là, mais on y reviendra plus tard. Tandis que la grâce familière, c'est celle de l'intimité. C'est la grâce qu'on adopte entre amis, avec des égaux, ou dans des situations, des lieux moins officiels. Ça peut inclure une promenade dans les jardins, par exemple. Donc commençons, nous allons voir donc, ces trois types de grâce. À la suite, la grâce modeste, vous la voyez ici dans le geste du jeune homme qui est devant, qui est le fait d'avoir sa main glissée dans sa veste ou dans son juste au corps, les deux sont permis. Donc, qui est jugé à l'époque comme, un geste très modeste. Donc, et vous avez aussi les positions des pieds. Vous voyez que la dame est dans une petite quatrième position fermée, parce qu'on a codifié et numéroté toutes les variantes des positions. Et donc, ce qui est aussi l'expression d'une certaine modestie. Pour la femme, la position des bras qui prédomine même depuis le Quattrocento en Italie, c'est d'avoir les avant-bras croisés sur la taille. Ce qui va changer à travers les siècles, c'est même au 19e siècle, ça c'est toujours. Ce qui va changer, c'est simplement où est-ce qu'on les croise. Est-ce que ce sont vraiment les deux avant-bras qui s'embrassent? Est-ce que ce sont que les mains, etc.? Est-ce que ce sont que les poignets? Comme ici, qui a été une des manières les plus à la mode dans les années 1680-1690, pour exprimer cette modestie féminine, du bonheur et de la bonne grâce. Les manières de tenir l'éventail aussi sont prescrites. On le tient soit quand on veut faire la révérence entre le pouce et l'index, avec la tête par en bas, et quand on marche, on le pointe presque droit devant, entre l'index et le majeur, un peu comme on tiendrait une cigarette. Donc, et tout ça est extrêmement codifié, et pour ce qui est des positions de l'éventail, je pense que j'aurai même un exemple plus loin sur lequel nous reviendrons. Ah oui, voilà. Vous voyez ici un traité qui enseigne le métier de demoiselle en marchant, et vous avez ici la reine de Charlotte en 1781, le traité, lui, de 1725. Vous imaginez hein, la longévité de ces postures de grâce. Donc, elle le tient entre l'index et le majeur, et donc droit devant. Et ici encore, pour continuer sur l'éventail, vous avez la troisième position de l'éventail, qui est représentée ici pour la femme de l'ambassadeur britannique en France, donc la comtesse Hertford, en 1765. Et cette position a été répandue partout en Europe, de l'Angleterre à la Hollande, en passant par la France évidemment. Et cette obsession des maîtres à danser, et parce que ce sont des hommes qui enseignent aux femmes finalement à être gracieusement féminines, et jamais il y a très très peu de maîtresses à danser. On a deux exemples, une aux États-Unis et une à Lyon. C'est les deux seuls exemples que j'ai pu recenser jusqu'à maintenant. Autrement, pour le 18e siècle, le 17e siècle, ce sont des hommes qui enseignent. Et d'ailleurs, le petit violon que portent les maîtres dansés, qu'on appelle la pochette, parfois il y a des secrets à l'intérieur pour mettre l'archet et pour mettre un éventail. Et j'avais lu dans un catalogue d'exposition à Montréal il y a très longtemps que c'était parce que le maître dansé avait chaud en démontrant les pas de danse, et ce qui n'est pas vrai, c'est qu'il pouvait avoir chaud, mais un homme ne portait pas l'éventail encore à cette époque-là, excepté en Italie, en Espagne, il y avait des exceptions, mais bon, c'est toute une autre histoire. Donc c'était pour montrer les positions, enseigner les positions de l'éventail aux jeunes filles. Et dont la troisième position, l'éventail, que vous voyez ici représentée. Et si vous vous intéressez un peu à ces détails-là dans la littérature, ou même dans les traités de civilité, on a peur de ce qu'on appelait les minauderies de l'éventail. Les minauderies de l'éventail, en fait, c'est toutes les afféteries qu'on pouvait faire pour accompagner le discours. Et donc, dans l'encyclopédie, on dit même que l'éventail ne sert en hiver qu'à se donner contenance. Parce que c'était aussi une manière de bloquer les mains. Et donc en limitant à 6 positions les positions de l'éventail, c'était une manière de donner des idées de contenance correctes, acceptables, qui ne détruisent pas la grâce de la silhouette. Comme ici, vous voyez, on peut très bien voir la troisième position de l'éventail en gardant les épaules basses et en arrière, la tête haute, voilà, elle est assise. Donc elle laisse seulement les pieds en dehors, en première position, ce que ne montre pas le tableau. Pour les hommes, donc, j'ai parlé de cette position d'avoir de la main cachée sous la veste, qui est soit accompagnée de la main cachée dans les poches, qui, comment dire, est la position la plus emblématique pour la marche et la promenade. Donc c'est une position justement de respect, de modestie, comme vous le voyez ici chez Gabriel de Saint-Aubin. On la retrouve aussi chez d'éminents personnages comme le prince de Conti dans cette gravure, mais qui est accompagnée d'une quatrième position, qui est la même position qu'on utilise dans la danse, qui est une position de majesté. C'est d'ailleurs celle du fameux portrait de Louis XIV par Ego. Cette quatrième position, avec les deux talons séparés de la distance d'une semelle, qui est la juste proportion, etc., etc. Et donc ici, le prince de Conti est représenté à la fois modeste et à la fois majestueux. Et souvent, c'est une stratégie des peintres, des graveurs, des portraitistes en général, de mélanger avec le haut et le bas du corps les deux codes de la grâce majestueuse et de la grâce modeste. Une manière de tempérer, en fait, une sorte de médiocrité dorée, de juste milieu, pour incarner la noblesse. Un des autres gestes que vous verrez souvent dans la peinture, surtout dans les vues de jardin ou les représentations de la cour, c'est celui-là, donc qui est la quatrième position aussi fermée, parce qu'elle n'est pas tout à fait alignée avec la pointe du pied, mais plutôt avec la cheville, et qui est de tenir son chapeau avec les deux mains sur le devant. Et comme le principe de base de ces postures d'humilité, c'est d'agencer, en fait, c'est de prendre le moins d'espace possible. Donc c'est de rapprocher les pieds, soit la première ou la troisième position, soit de rapprocher les mains, parce que quand on cache la main sous son juste au corps, on rapproche la main, mais il ne faut jamais toucher hein, le coude avec le flanc avec le coude. Ça, c'est interdit. Parce que sinon, ça devient rustique. Et donc, toujours avec la tête haute, évidemment. Donc, quand on regarde une représentation de la cour comme celle-ci, vous voyez que le personnage juste derrière Louis XIV adopte cette position. Donc, et le roi, lui, peut vraiment prendre de l'expansion avec une grande quatrième dite ouverte et avec sa canne bien appuyée sur le sol. Et donc il y a souvent cet effet dans les représentations de la cour où on voit que le courtisan adopte le code de la grâce modeste, alors que Louis XIV, lui, peut toujours adapter à tout moment le code de la grâce majestueuse. Et donc ça, c'est assez constant. Pour revenir aux positions, elles ont été publiées pour la première fois en 1700. Donc elles existaient dans leur forme, mais on leur a donné un nom, on leur a donné un numéro même, je devrais dire, de 1 à 5, seulement à la fin du XVIIe siècle. Donc vous avez une représentation ici, où il y a un demi-cercle qui représente le tronc, vu d'en haut. Vous avez une ligne qui est la ligne qui passe par le nombril. Et vous avez les pieds qui sont deux bâtonnets avec deux talons, deux petits cercles qui forment le talon. Donc vous avez la première position, qui est le fait d'avoir les talons collés. Deuxième position, qui est le fait de les avoir séparés. Troisième position, qui est le fait de les avoir emboîtés l'un contre l'autre. Quatrième position, celle de Louis XIV. Et cinquième position, celle d'avoir le talon du pied devant collé à la pointe du pied derrière. Qui est une position qui a été utilisée beaucoup dans la danse, hein, qui est encore utilisé aujourd'hui dans la danse, mais qui a été utilisé en maintien seulement dans les années 1660. Après, elle a été jugée trop affectée pour incarner la noblesse. Et donc, vous les avez ici, dans un autre traité, ces cinq positions représentées en élévation, si je puis dire. Tout à l'heure, c'était en plan. Et ces positions, la troisième que vous voyez à gauche, la première que vous voyez à droite, est inculquée aussi comme signe de soumission aux soldats de l'armée française. Donc, signe de soumission parce qu'on est dans la grâce modeste, hein, mais en même temps, ça reste de la grâce, avec les épaules en arrière, les côtes détachées, les pointes des orteils tournées vers dehors, qui sont des manières de... Parce que ce qu'ils expliquent dans les traités et les ordonnances militaires, c'est que le soldat est représentant du roi. Il incarne, en quelque sorte, le pouvoir royal, comme application du pouvoir royal, donc il est représentant de ça. Et pour cette raison, donc ils en sont très conscients, c'est pas moi qui interprète. C'est comme ça qu'eux comprennent, ils doivent être dans une grâce qui leur rend digne de représenter le roi. Ici, j'ai une autre première position qui est la même que celle des soldats que vous voyez dans ce courtisan vu de dos qui joue avec le 14 au billard, un de ses jeux favoris. Nous allons passer maintenant à la grâce majestueuse. Donc la grâce majestueuse, c'est tout le contraire. C'est quand même une grâce retenue, hein, mais qui exprime la supériorité, pour le dire ainsi. Vous connaissez tous le rigaud, donc je ne vais pas le nommer. Vous avez quelque chose de plus intéressant, qui est le Louis XIV de Charlemagne, qui est dans la galerie des Bulles et qui nous représente vêtu à l'antique. Donc, il y a quelque chose d'un peu bizarre dans cette figure, et c'est M. Sabatier qui avait, dans un article très intéressant, relevé ce fait, le côté très très droit de la figure de Louis XIV, et il n'est pas du tout en contrapposto à l'antique, comme on pourrait s'y attendre, comme les sculptures qui servent de modèle à cette posture, qui ont fait connaître cette posture au moderne. Et pourtant, les hanches sont droites. J'aurais pu vous amener un exemple italien pour vous montrer la même posture avec des hanchements, vous auriez peut-être vu plus facilement le contraste. Mais ici, même s'il est à l'antique, et c'est très rare qu'on voit Louis XIV à l'antique déhanché, ça existe, j'ai trouvé des exemples, mais c'est rarissime. Et d'ailleurs, Sabatier avait trouvé des exemples où la figure de Louis XIV était déhanchée dans les esquisses, ça avait été corrigé dans la peinture, pour éviter que, justement, on contredit cette sixième règle qui est d'avoir les hanches droites et fermes sous le tronc. Ça revient souvent dans les traités de civilité, comme quoi cette idée que le déhanchement est indigne et impudique aussi. Et donc il y avait une sorte de tabou entourant ça. Soit c'était impudique, soit c'était de la paresse. On voyait les paysans, c'est souvent on donne des paysans l'exemple, qui, après une dure journée de travail, se déhanchent d'un côté ou de l'autre. Et donc, ce qui pour eux est impensable pour la figure noble. Il y a un autre cas où on retrouve ces costumes à l'antique, c'est au théâtre. Et donc, il y a des personnages qui incarnent justement dans la tragédie des personnages antiquités et qui doivent se tenir sur le pied, généralement, parce que ça fait plus à l'antique. C'est un jésuite encore qui, dans ce traité scénique, raconte que c'est par l'imitation des sculptures antiques qu'on en a déduit une technique de jeu qui découle aussi de la rhétorique, hein, classique, qui est le fait d'avoir les hanches fermes, mais sur un pied, pour faire plus à l'antique. C'est-à-dire qu'on est en contrapposto, au sens très très large, mais sans déhanchement. Donc ici, la bienséance, les règles de pudeur et les jugements moraux viennent corriger la posture de l'antique, de la même manière que le costume, vous voyez, n'est pas à l'antique comme les Romains le portaient. Hein. Donc on a un tollet, il y a cette jupe, on a une cuirasse, mais qui sont complètement dénaturées par la mode. Donc dénaturées au sens qu'ils ne sont pas archéologiquement exacts. Et donc c'est un autre des lieux où ça se produit. Vous avez ici une gravure qui montre cette posture scénique. et qu'on retrouve beaucoup chez Antoine Coipel. Antoine Coipel qui a été critiqué beaucoup par Hogarth, par Diderot aussi, par d'autres, pour justement avoir donné des figures de maître à danser, des postures de maître à danser à ces personnages de l'Antique. C'est-à-dire que ce n'est pas inspiré du vocabulaire de l'Antiquité, des postures, des motifs qu'on retrouvait en Antiquité, pour préférer celles qu'on retrouvait au théâtre. Et d'ailleurs, il demandait à son ami Baron de venir poser pour lui souvent, et donc il s'inspirait, en fait, il corrigeait l'Antique par la civilité, il corrigeait l'Antique par la bienséance. Et ce qu'il nous donne, c'est postures sur un pied, mais qui ne sont pas déhanchées. Et donc, quand on regarde une vue comme celle-ci de la cour, on voit Louis XIV dans une très belle quatrième position. Derrière lui, personnage en quatrième ouverte, un garde en deuxième position, parce que le garde n'est pas nécessairement comme le soldat. Lui, dans une posture tout à fait majestueuse, qui doit en imposer aux courtisans eux-mêmes. Et vous voyez les femmes qui croisent leurs bras devant leur taille, et on ne voit malheureusement pas à cause des robes les positions, mais sont certainement des troisième position, première position, petite quatrième position, petite deuxième position, qui sont les positions les plus recommandées dans les traités européens. Ici, vous avez un geste que on voit, je crois, ici, qui est le geste de carré, Q-U-A-R-R-E-R, donc comme on disait à l'époque, carré la main sur la hanche, parce que ça fait un angle droit. C'est une excellente manière d'éloigner les coudes de la taille, comme on l'explique à l'époque, et c'est aussi une manière justement d'affirmer sa majesté, sa grâce majestueuse. Et ça, c'est un des lieux communs des traités sur le maintien. On dit qu'il faut toujours éviter d'avoir cette position-là si quelqu'un est supérieur à nous dans la salle. Donc, mais que si on est avec des égaux, ou des amis, ou des inférieurs, elle a un côté très héroïque, cette posture de la main sur la hanche. Donc cette posture ici est appliquée à un jeune Bourbon de 9 ans qui est devenu roi de Naples et qui est représenté pour la première fois dans un portrait. Et vous voyez qu'on a décidé de lui donner une posture majestueuse dans le haut du corps, avec le bras carré à la hanche, mais une position respectueuse, modeste, en bas, avec la troisième position. Les femmes, généralement, ont très peu accès au code majestueux de la bonne grâce, mais vous avez ici un très beau bras carré de Marie-Adélaïde de Savoie, à votre gauche, généralement c'est une posture qui est très peu recommandée aux femmes, sauf aux veuves, j'ai déjà vu ça une fois, sauf aux veuves, parce que le fait d'être veuve donne un peu de virilité, c'est ce que j'ai déjà vu, parce qu'il est très, très curieux. Mais en fait, je pense que ce que voulait dire le traité, c'est que quand on est dépendante, femme indépendante, on peut appliquer des codes de posture ou de la grâce majestueuse qui sont généralement réservés aux hommes. Les portraits de Christine de Suède, par exemple, en sont remplis. Donc on retrouve ces postures très affirmées. Et on a une position modeste ici pour la Duchesse d'Orléans, qui est celle de la main dans le juste au corps, qui est une position par nature d'homme à cause du costume, hein, parce que la robe ne permet pas de glisser la main par le devant comme ça, sauf quand on est en habit de chasse. Et c'est le cas des deux représentations que vous avez ici. L'habit de chasse permet une inversion des codes de maintien, c'est-à-dire les codes masculins sont permis aux femmes, et sont permises aussi, ces règles-là sont autorisées aussi par le bal masqué. Évidemment, on en voit souvent les représentations de bal masqué, où le costume permet cette licence. Pour terminer, la grâce familière, qui est, à mon avis, la plus curieuse. La grâce familière ne faisait pas l'unanimité, c'est-à-dire que certains trouvaient que c'était de l'affectation. Donc le bel air, par exemple, vous entendez des expressions sur le bel air comme de manière péjorative, c'est-à-dire ces gens du bel air, ces gens-là du bel air. Mais vous trouvez aussi dans certains traités de manière très positive. Le bel air est une grâce extrêmement sophistiquée, une sorte de désinvolture. En fait, c'est la sprezzatura dont parlait Castiglione. C'est une forme de la grâce, ce n'est pas la grâce, mais c'est une forme désinvolte, décontractée de la grâce, qui cache l'effort par une certaine nonchalance. nonchalance qui est très très étudiée, hein, je vous rassure. Donc la grâce familière, certains ont parlé d'air penché. Donc c'est une des formules qui apparaît au XVIIIe siècle pour décrire les postures du bel air. Et vous voyez qu'on contredit les sept actions de la posture aristocratique, c'est-à-dire que la tête est penchée. Hein, on a un côté mélancolique, il y a presque un déhanchement, mais en tout cas, la position est très très grande, on a le poids vraiment sur la jambe derrière, les mains dans les poches, ce qui est permis quand on marche généralement, mais pas quand on se tient. En tout cas, il y a des applications qui font que ici, le fait d'avoir la main dans la poche est un geste de grâce familière. Donc, ces airs penchés sont. Pardon. Ah oui, ces airs penchés, on les retrouve aussi dans la famille du duc de Penthièvre, chez un personnage. Elle penche, et elle penche d'ailleurs du côté gauche, sa tête du côté gauche, ce qui généralement est très très mal jugé, mais ici, c'est permis, pour deux raisons. La première, c'est son âge. Il y a des postures de familiarité qu'on tolère chez les jeunes, chez ce que nous, on appelle les adolescents aujourd'hui. Le concept d'adolescence est très très compliqué à cette époque-là. Donc c'est une licence qu'on autorise à la jeunesse. Et aussi parce qu'ils sont dans une situation familiale, c'est-à-dire qu'on est chez soi, dans l'intimité, avec des gens qui nous entourent. Et donc, ces postures-là, comme le fait d'avoir la jambe croisée, est jugé aussi chez une femme, comme à l'époque, comme un geste viril. Et tous les maîtres dansés s'entendent pour dire qu'il faut bannir absolument, même chez les hommes, hein, mais surtout chez les femmes, le croisement des jambes. Et pourtant, on le voit partout dans l'iconographie. On le voit surtout, je devrais dire, dans des contextes de familiarité, justement, où le contexte n'est pas solennel. Et souvent, quand on peut retrouver dans les inventaires après décès où étaient accrochés les tableaux, une des choses dont on se rend compte, c'est que justement ces portraits où on voit la grâce majestueuse, la grâce modeste, sont accrochés souvent dans les pièces de réception, où les invités, les gens de l'extérieur, viennent en visite par exemple. Mais dans les espaces de l'intimité, sont accrochés des portraits comme ceux-ci, qui sont. Pour celui-là, je ne peux pas parler parce que je n'ai pas trouvé, l'inventaire après décès qui me permettrait de savoir où c'était accroché, mais il y a des bonnes chances que ce soit accroché dans un cabinet privé ou dans des appartements privés. Vous rappelez de ce geste de la main dans le juste au corps. Il y a un traité qui en parle et dit quand on le double, ça devient familier. Et donc, comme vous le voyez ici chez Watteau, dans un détail de l'enseigne de Gersin, ce jeune homme fait deux fois le geste de la main sous la veste ou juste au corps, et qui devient ici un geste du bel air, alors qu'à la base, c'est un geste d'humilité. Une des positions qui va être en vogue, c'est celle-ci, qui va être condamné par presque tous les traités de maintien, même si certains auteurs sont un peu indulgents envers cette position. C'est la position que certains maîtres avancés appellent de la cigogne, ou d'autres maîtres avancés la position en X, parce que les jambes sont croisées en X. Et c'est une des seules positions en fait, où le déhanchement est obligatoire. Généralement, c'est plutôt pour la condamnée qu'on en parle. C'est le cas de Charles-Hubert Méraud, dans son traité du maintien, qui dit qu'il faut placer le corps droit et perpendiculairement sur les hanches. Et donc, il revient sur cette position-là, qu'il voit un peu partout, et l'extrait en vaut la peine. Il y a encore certaines attitudes indécentes dont je voudrais qu'on fît sentir le ridicule aux enfants, surtout aux garçons. Ce sont celles de s'appuyer indistinctement contre le premier meuble d'un appartement qui se trouve à leur portée. Ces petits airs penchés ne sont déjà que trop à la mode, même en présence des dames, quoi qu'ils soient contraires à la bienséance. si on voulait faire attention aux accidents qui sont ordinairement les suites de ces sortes d'attitudes, on s'en déshabituerait certainement, car il n'y a rien de plus ordinaire dans un appartement parqueté et bien ciré que de voir glisser les pieds de ceux qui les ont adoptés. Parce que dans ces sortes d'attitudes, on croise ordinairement les jambes. De là, il résulte souvent une chute. Et quoique les suites en soient quelquefois dangereuses, le premier sentiment du spectateur est de rire. Donc vous voyez ici, c'est des techniques de renforcement. On essaie d'agiter un épouvantail pour dissuader les jeunes d'adopter cette posture. Mais cette posture, qui est une sorte de grâce très très chic par sa familiarité, donc une sprezzatura version 18e, a des modèles antiques. On peut penser à la copie romaine du fond d'un côté au Capitole ou du Mercure des offices. Et donc, on retrouve pas mal d'exemples comme ça, comme le fait de mettre la main à la hanche, mais avec le revers de la main, plutôt qu'avec les deux doigts devant, comme il se doit. Et il y a des débats entre les maîtres d'anciens, aussi faut-il mettre le revers de la main ou le plat de la main, etc. Et est-ce qu'on cache les doigts derrière, ou on laisse que les doigts devant, et vraiment, ça les préoccupe beaucoup à l'époque. Et pourquoi il y a cette hésitation-là? Parce que c'est une transposition d'une posture antique, littéralement de la vie de tous les jours. C'est une historienne américaine, Donna Stanton, qui parlait de ces... qui a conçu le concept du aristocrat as art, et qui est un concept qui réfère justement à cette conception de soi. Des aristocrates du XVIe siècle, elles se concentrent surtout sur le XVIe siècle, si je me rappelle bien, qui est de concevoir leur travail de voix, leur travail de diction, leur travail de posture, comme un travail sur une sculpture. Souvent, c'est la métaphore utilisée, soit en cire, soit en argile, ou parfois c'est la métaphore botanique, c'est comme une plante avec ses tuteurs, etc. Donc, on garde toujours cette idée du travail sur soi comme si on était une œuvre d'art, en fait. Et il y a un maître d'ancien qui dit ça très bien, il dit que, quand il enseigne les cinq positions, il dit que quand vous êtes dans la vie quotidienne, c'est-à-dire hors de la danse, quand vous êtes dans la vie quotidienne, soyez toujours dans une posture telle que si les plus grands maîtres de la peinture arrivaient et pouvaient figer le moment, ils pourraient faire le tour de votre figure de telle sorte qu'il n'y a rien à reprocher quant aux proportions, quant à la grâce, etc. Donc c'est vraiment une conception de se concevoir soi-même comme une figure dans une peinture ou comme une sculpture. Ça ici, vous avez un geste très très intéressant, celui des mains derrière le dos, qui a été très très combattu au XVIIe siècle, qui est assez toléré au XVIIIe siècle, comme quelque chose justement du bel air, posture décontractée, mais malgré tout gracieuse. Et donc on la voit ici dans ce même dessin de portail que vous avez pu voir, exposition, fête et divertissement. Il se tient ici parce qu'il est dans un contexte de familiarité ou de, d'informalité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au XVIIe siècle, par exemple, ça faisait partie des gestes rustiques qu'on recommandait dans la peinture, dans les traités de peinture, pour représenter les paysans. Et en 1682, dans un traité hollandais de Willem Huré, il disait que d'avoir, et je cite, les deux mains ensemble au cul paraît plus rustique que respectable. Et donc, pour eux, c'était pas avoir les mains derrière le dos. C'était quelque chose d'extrêmement vulgaire et à fuir à tout prix. Et il y a plein de gestes comme ça qui sont bannis au XVIIe siècle, qui envahissent la grâce familière et qui en deviennent des gestes ou des postures très très chics. Mais la plupart de ces gestes, incluant celui d'avoir les mains dans le dos, va être de plus en plus critiqué avec l'avancement du siècle. Et ici, je vous lis un extrait de l'essai sur la physionomie destiné à faire connaître l'homme et à le faire aimer, de 1686, de Jean-Gaspard Lavater. Et il consacre une planche à cette position d'avoir les mains dans le dos. Il dit « Jamais l'homme modeste et sensé ne prendra une pareille attitude, dans quelque cas que ce soit, et si, par hasard, son attention fortement excitée l'obligeait à lever la tête comme le A, c'est-à-dire la figure numéro A à droite. Il ne croisera pourtant pas ainsi les bras sur le dos. Ce maintien suppose nécessairement de l'affectation et de l'ostentation, surtout avec une telle physionomie, qui n'a rien de désagréable, mais qui n'est pas celle d'un penseur, ni même d'un homme capable de réfléchir, car cette capacité seule est déjà une qualité infiniment rare. La dernière figure appartient aussi à cette classe de gens qui veulent s'accréditer à force de prétention. En général, on peut dire des personnages de cette vignette qu'ils se donnent des airs, ou en d'autres termes, que ce sont des têtes éventées. Plus ces sortes de messieurs s'en font à croire, et plus nous sommes tentés de leur ôter de ce qu'ils peuvent avoir de mérite réel. » Donc vous voyez que l'avatar, lui, à la fin du 18e, il est plutôt un détracteur du bel air. Donc toutes ces postures informelles, il les méprise, et c'est un sentiment qui va s'accroître. Je termine avec le geste des jambes croisées, qui est aussi une manière de s'asseoir, qui fait partie du bel air. La posture assise formelle, c'est celle-ci. Pour un homme, c'est d'avoir ses pieds dans la quatrième position, une petite quatrième position généralement. Et on rapproche les pieds à la troisième position avant de se lever pour éviter d'avoir à donner un grand coup disgracieux des épaules vers l'avant. C'est une posture qu'on retrouve croisée aux chevilles, croisée aux genoux dans différents contextes, ici chez Carmontel, dans des contextes de familiarité ou d'intimité plutôt. Et c'est, vous voyez que ça, c'est notre traité de maintien ici à droite. Il y a une planche qui dit le maintien qu'on doit avoir soit en lisant, soit en travaillant. Donc vous voyez que c'est une belle première position, bien droite, bien asymétrique. Et ça s'inscrit, ça, dans des réflexions qui ont commencé autour des années 1640 sur l'ergonomie et l'orthopédie. Ici, vous avez un traité de l'orthopédie, de 1641, où il y a la bonne posture, la bonne situation et la mauvaise situation. Donc, quand une jeune fille lit, elle doit être en première position, donc ne pas déranger ses hanches, en fait, pour être bien droite, et la tête haute, et donc il ne faut pas faire venir le livre à soi, mais il faut que la vue aille vers le livre, il y a toute une explication. Parce que la mauvaise situation est dommageable pour le corps, mais aussi parce qu'elle est laide, disgracieuse, et qu'elle dégoûte. Et donc ça, l'orthopédie, c'est un traité médical, mais très très intéressant, parce qu'il donne toutes sortes de moyens pour ouvrir les épaules, ouvrir les pieds, tout ça, parce que pour lui, le but du médecin, justement, orthopédiste, hein, c'est un nouveau mot que lui-même a inventé, c'est justement de contribuer à la grâce générale, et que ça contribue au bonheur de voir des positions toujours gracieuses. Donc voici la position formelle pour les dames, cette première position. Vous l'avez ici dans ce portrait fait par Carmontel à gauche. Elle a bien les épaules en arrière, le corps droit, elle ne s'enfonce pas dans son fauteuil, comme on recommande les maîtres avancés, elle a la tête bien droite. La tête bien droite, c'est quand on commence à sentir la naissance du double menton, disent les maîtres avancés. Donc, et souvent, quand on pense avoir la tête droite, en fait, on est un peu trop haute. Et elle a probablement la première position, ce serait logique. Tandis que Madame de Pompadour, qui est représentée ici dans son intimité, croise les jambes. Position virile dans l'espace public, mais qui, dans l'intimité, dénote le bel air opposé au bon air. Vous avez ici deux postures qui sont jugées comme relâchées pour l'homme et pour la femme. Hein, il n'est pas en quatrième position, mais en deuxième position, donc avachi sur son siège, et elle croise les jambes, bien qu'elle tienne ses mains devant la taille. Aux versions de ces dessins, le peintre qui les a représentés, Carl van Loo, nous informe que ce sont des amis à lui. En fait, il représente des amis à lui dans l'intimité, donc le rapport entre le peintre et les portraiturés convient à cette représentation de posture, parce qu'on est comme dans une situation de sociabilité entre égaux, entre amis, et qui permet d'aller vers le plein air. Je termine avec ça. Donc, le bel air, le bon air et la bonne grâce donc, vont tranquillement disparaître. Donc, c'est un code qui a été constitué de manière cohérente donc, dans les années 1660, au début du règne de Louis XIV, notamment, j'imagine, avec le développement de l'Académie royale de la danse qui organisait des séances, mais malheureusement, les maîtres dansés étant trop paresseux, ils n'ont pas gardé beaucoup de pièces d'archives, on en a très 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 peu pour les deux siècles, et ça a été quand même un moment où ils discutaient de réformes de la danse en général, et donc c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on voit apparaître un vocabulaire de plus en plus unifié à travers l'Europe. À partir des années 1660, un pas de bourré, un coupé, donc toute la nomenclature des pas devient assez uniforme, et on peut croire que c'est un peu la même chose pour la danse en prose, pas que pour la danse en vers. Il y a eu certainement cette uniformisation qui se voit dans les traités de civilité et qui se voit aussi dans la peinture et la gravure. Donc, il a été diffusé dès la fin du XVIIe siècle un peu partout en Europe, standardisé, rigidifié au XVIIIe siècle, et puis tombé en désuétude à partir de la Révolution. Mais bon, ça dépend des pays, parce qu'en Espagne, en 1801, au Collège des Nobles, on apprend encore, c'est dans le programme éducatif, les premières leçons du maître dansé, c'est les cinq positions. La première séance sur le cursus, ça reste exactement ça. Et dans les portraits de Goya, par exemple, de la famille royale, on est encore dans ce paradigme corporel-là. Mais bon, si ça se termine avec la Révolution en France, et tranquillement partout en Europe, c'est aussi le travail de 40 ans, presque 40 ans de critique de la part des philosophes qui prônent non pas le naturel que les maîtres dansés vantent, mais un retour véritablement à la nature, et pour eux ce code est trop artificiel. Critique aussi de la part des médecins contre les corps baleinés, les tourne-hanches et toutes ces machines de torture qui sont néfastes selon eux pour le corps, mais aussi critique dans le milieu artistique de ces peintres, et notamment les portraitistes, mais pas que les portraitistes, qui adoptent dans leur peinture ce code. Et l'un des plus virulents détracteurs du bon air, de la bonne grâce, c'est Diderot, qui, à mon avis, était plutôt un défenseur du bel air. Mais bon, ça sera un autre chapitre à développer, et nous n'aurons pas le temps, malheureusement. Et donc, vous voyez ici, à la fin du XVIIIe siècle, deux gravures de Daniel Chodowiecki, Affectation et nature, et du côté de la nature, vous avez des pièces, des pieds presque parallèles, les épaules tombent normalement, tandis que du côté de l'affectation, on retrouve des belles quatrièmes positions, on retrouve le chapeau sous le bras que vous avez vu, et tout ce code en fait qui n'était pas jugé comme de l'affectation encore par certains. Et quand on regarde un portrait comme celui de Napoléon en 1812, on voit que ce code-là est vraiment en train de mourir. En fait, il est mort déjà depuis longtemps. Napoléon essaie de se réapproprier les codes monarchiques, et donc un peu du bon air, de la bonne grâce. Donc on retrouve ce geste de la main sous la veste. Sous le gilet en l'occurrence, et qui est accompagné d'un ventre en avant, d'épaules qui ne sont pas en arrière, qui sont presque roulées par en avant aussi, une tête qui est enfoncée, qui n'est pas haute, comme je vous l'avais dit dans la première, et les pieds qui ne sont pas vraiment en dehors. Donc on imite encore le code sans trop le comprendre, et c'est Jean-Étienne Despréaux qui avait été engagé pour être maître à danser de Marie-Louise vers 1810, et qui dit qu'il avait été estomaqué dans ses mémoires, en fait, qu'il était estomaqué d'avoir la tête aussi basse et les bras aussi pendants, et qu'elle marchait certes en ouverture, mais la pointe du pied en premier au lieu du talon en premier, comme on a toujours appris en Europe. Et donc il est assez désespéré devant tant d'ignorance, parce que que c'était un danseur de l'opéra, Despréaux, à l'époque. Plus à l'époque, il était à la retraite, mais bon, il était quand même navré de voir que ce code-là s'était perdu. Et il dit que même Napoléon, qui avait plus de grâce que Marie-Louise, n'était pas très gracieux non plus. Donc évidemment, tout ça a été publié posthumément, hein, parce qu'on ne peut pas publier ça du vivant de Napoléon. Et pour terminer sur cette citation, c'est une citation de la comtesse de Genlis dans son Dictionnaire des étiquettes de la cour de 1818. Elle donne cette définition du bon air. Avant la Révolution, on appelait avoir bon air la noblesse et l'élégance dans le maintien, dans la manière de s'habiller, de meubler sa maison, de recevoir chez soi, etc. Le bon air composé de mille choses frivoles avait cependant toujours une pour base, un fond d'estime. Après la Révolution, lorsqu'une société toute neuve commença à se rassembler, le bon air dont on vient de parler était tout à fait oublié. Je vous remercie. D'aujourd'hui était les révérences, et la raison est tout à fait triviale, c'est parce que j'ai donné trois conférences sur les révérences différentes au mois de septembre à Leipzig, à Paris et deux à Paris et une à Leipzig. Et donc c'est pour ça que je me suis permis de changer un peu d'air. mais la taille des questions est le bon moment. Les révérences étaient très très variées, très complexes et elles sont très très bien écrites, donc on peut les reconstituer aujourd'hui parfaitement. J'ai même d'ailleurs enseigné la manière de les faire pour des acteurs qui en ont besoin sur scène et qui vont les utiliser dans leur spectacle. Donc selon qu'on est dans les années 1760 ou plutôt à la fin du 18e siècle, il y a des petits changements. Mais une chose qui ne change pas, c'est que la femme plie les deux genoux et elle descend sans perturber sa tête, peu importe tout ce qu'on fait avant ou après. Et l'homme penche le buste. Et donc c'est vraiment au 19e siècle, un moment où la femme va aussi pencher le buste. Et ça, c'est vraiment, ça n'existe pas du tout au 18e siècle. Mais je ne sais pas si vous vouliez savoir des choses un peu plus précises sur les positions, parce qu'il est tellement vaste que...
Vous avez commencé à esquisser, quand on approche, vous avez fait l'entrée.
Oui, tout à fait.
La première partie. Vous avez montré la première partie de l'entrée, mais ensuite, je crois que les révérences sont plus ou moins profondes. En fait.
Oui, il y a des, oui, c'est ça, on doit moduler ces révérences en fonction justement des situations, en fonction du lieu et en fonction du rang des personnes à qui on adresse la révérence. C'est-à-dire, je vais prendre la révérence des dames comme exemple. Malheureusement, vous ne pouvez pas tous me voir, mais elle se fait en première position, donc je fais début 18e. Donc en première position, on plie les genoux, et si on est entre deux bonnes amies, on plie légèrement et on remonte. Généralement, on descend plus vite et on remonte plus lentement. Il y a certains maîtres, c'est qui s'intéresse. En tout cas, il y a des contradictions aussi. Mais voilà, et si c'est une situation formelle, on va descendre un peu plus bas. Mais jusqu'au moment où les talons veulent se lever, en fait, où les tendons tirent et le talon veut se lever. Et si on est devant le roi, on doit descendre jusqu'à temps que les talons se lèvent. Donc on descend très très bas, le plus bas qu'on peut. Et il y avait en Suède, à la fin du 18e siècle, des maîtres à danser qui cogitaient beaucoup sur à quel point il faut descendre en pliant le buste, à quel point il faut plier. Et ils disaient, pour les hommes, quand vous voyez entre vos jambes, c'est déjà que vous êtes trop bas. Pour les femmes, ils disaient que quand vous sentez un appel d'air passant entre vos jambes, c'est que vous êtes trop basse. Donc il y avait vraiment cette... complètement burlesque pour nous sur justement à quel degré, à combien de centimètres. Par exemple, pour les postures de pied, on allait dire, certains maîtres à danser disent bon, la distance d'une semelle, la distance de la moitié d'une semelle. Mais d'autres vont dire il faut 4 pouces entre les deux talons. Et si on a 6 pouces, on est dans la grande deuxième position. Donc, ici, on a que 3 pouces ou 4 pouces. On est dans la petite deuxième position. Donc, vraiment, c'est vraiment millimétré. Et je ne sais pas si vous connaissez la ligne. Mais la ligne est une unité de mesure sous l'Ancien Régime. Et donc, on dit qu'il faut que laisser l'espace de 1 à 2 lignes entre les sourcils et le tricorne quand on le pose. Donc, par exemple, pour la révérence, on va lever le bras complètement à l'horizontale. Et quand le bras est arrivé à cette hauteur, seulement le coude va se plier et pas du tout le haut du bras. Attraper le juste au corps, le tricorne, on peut céder le petit coup de tête avec le pouce sous le retroussi et les 4 doigts dessus. Si on veut faire du bel air, il faut lever le petit doigt. Si on veut être du bon air, il faut mettre les 4 doigts dessus. Et ensuite, on reprend le même chemin. Et on redescend. Et généralement, on redescend soit sur le côté, ou si on a une suite de révérence à faire, on va mettre le chapeau, le tricorne sous le bras. Et quand on est supérieur, comme le roi par exemple, lui, il a le droit de toucher son chapeau et c'est tout. Et il faut vraiment qu'il passe quand même par là. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est le militaire, hein, donc c'est une sorte d'ellipse, ou peut-être même une métonymie finalement de la prise du chapeau, qui est restée comme ça, mais si vous les voyez faire, ils repassent par ici, exactement, avant de prendre le chapeau. Donc voilà pour la révérence.
Le Besnain.
Ah, le Besnain, non, il existait au XVIIe, ouais, même au XVIe siècle. Ouais. Ah, ouais. Et il est très codifié aussi, il s'intègre à la révérence. C'est un plus qu'on peut ajouter à la révérence.
J'avais une question sur la queue des humains que vous avez évoquée.
Oui, tout à fait.
Je suis appuyé sur son origine. On a un témoignage sur Marie Antoinette, c'est l'ami beaucoup dans les années 1780. Vous en avez conclu que la queue des humains est arrivée en France à cette période.
Ah, d'accord.
Non, c'est pas la.
À ma connaissance, non, mais ça dépend dans quel contexte que vous vous rappelez. Est-ce que c'était pour signer une alliance ou...
Non, non, pas du tout. C'est ça, il n'est pas le nom officiel.
Et est-ce que ça c'est de main droite à main droite ou de main droite à main gauche?
De main droite à main droite.
De main droite à main droite, d'accord.
Et ça vient d'Angleterre.
Oui, à mon avis, mais c'est vrai que... Est-ce que ça ne pourrait pas s'inscrire dans l'attrait pour l'Angleterre qui a lieu au XVIIIe siècle? Oui, oui, tout à fait. C'est pas impossible. Et du coup, je suis assez intéressé parce que j'ai pas encore trouvé d'exemple au XVIIIe de cette poignée de main. Et...
Ça, c'est un exemple qui est peu de me faire passer.
D'accord. Et l'autre chose qui est compliquée, c'est qu'au XVIIe, par exemple, il y a le topla, qui est le fait de. Toucher la main un peu rapidement, qui existe déjà et qui peut être fait au moment d'une salutation, mais ce n'est pas vraiment la poignée de main où on agite la main conjointement. C'est vraiment on touche et c'est tout. Donc ça aussi c'est intéressant parce que chez les Quakers c'est vraiment comme on le fait aujourd'hui, hein, c'est main droite à main droite et il faut agiter la main avant de.
L'origine c'est un peu en Hollande.
Oui, en fait c'est Herman Rodenberg aussi le même. Historien hollandais qui a travaillé sur l'histoire de ce geste et qui, en fait, c'est un geste qui existait justement à les conclusions de marché, pour faire un marché conclu. Donc il existait déjà, mais pas dans un contexte de salutation. Donc il a été détourné pour éviter d'avoir à faire la révérence d'un chrétien à un autre. Et d'ailleurs, il y a un Allemand protestant luthérien, le maître annoncé dit. Parce que chez les luthériens, il y a plus de licence par rapport aux révérences. Et donc, ils font la révérence entre chrétiens. Mais lui, son problème, c'est est-ce qu'on peut faire la révérence à Dieu dans le temple, en étant ou catholique, ou protestant, ou luthérien? Est-ce qu'on peut faire la révérence à la française? Et c'est ça sa question. Est-ce que c'est un crime de faire la révérence à la française? Et il dit que Dieu se fiche de la forme de la révérence pourvu que ce soit un acte de soumission. Et il dit que dans d'autres pays, on s'allonge par terre, on raccourcit son corps, mais que la forme n'importe pas. Et donc pour Dieu, c'est différent. Et donc, tout à fait légitime de faire une révérence en avant puis en arrière, en entrant dans une église, sans problème.
La révérence, ça se faisait en pliant le genou.
Pour les dames, il y a deux genoux. Pour les hommes, un seul genou. Donc l'autre jambe doit rester très droite. Donc si j'avance le pied, c'est mon, le genou derrière qui va se plier pour faire le raccourcissement du corps. Mais il y a d'autres manières de raccourcir le corps et c'est pas nécessairement toujours le même genou. Par exemple, en 1660, on va marcher 4 pas, après avoir un chapeau évidemment, et on va reculer le talon, la pointe du pied droit derrière. Et donc c'est le pied qui recule, qui plie. Mais la jambe, le devant, reste droite. Et tout ça s'accompagne avec des cabas qui s'articulent de manière différente selon les pays. Selon les pays, selon les époques.
Et pour se déplacer, il ne fallait pas glisser
Oui, bonne question. L'histoire de la marche, on marche en dehors, dans les classes aisées, depuis 1610 en France, en Angleterre et en Hollande, à tout le moins. Avec le talon en premier, donc jusque dans les années 1740-50 approximativement. Après, un des défauts qui revient dans les traités, c'est que dites aux enfants de ne pas retrousser les orteils. C'est-à-dire de ne pas avoir ce qu'on dit aujourd'hui en danse, d'avoir le pied flex. À l'époque, je ne me rappelle plus comment il l'exprime, mais bon, ça fait un peu rustique. Il ne faut pas avoir de tension, si vous voulez, dans le pied. Mais c'est le talon qui pose, comme nous quand on marche, mais avec la pointe des pieds en dehors. Et dans les années 1640-1660, les traités commencent à changer, et on dit qu'il faut poser et le gros orteil et le talon en même temps. Donc on marche à plat. Parce qu'on est toujours dans une position parfaite. Donc il y a toujours une quatrième position. On passe par une première en déséquilibre à une vraie quatrième. Et donc, j'ai commencé à m'entraîner pour montrer aux danseurs qui voulaient savoir comment marcher d'un côté à l'autre de la salle, puisque c'est la même technique, en fait, dans ces années-là pour le déplacement scénique dans la danse. Et donc, c'est assez compliqué, mais c'est faisable. Hein. Et après, ça ne marche toujours pas, donc il y a toujours ces orteils qui retroussent et qui exaspèrent les traits dansés. Et on commence à développer une marche avec la pointe en premier, mais ça ne fait pas l'unanimité.
On
ne
voit
pas glissant. Non. Mais il y en a qui le font, et je me demande si ce n'est pas du bel air. Parce que c'est décrié, le fait de ceux qui traînent les pieds, et qui glisse les pieds, c'est vu comme une mollesse. Et j'ai l'intuition, mais j'ai pas la preuve, que c'est peut-être une manière du bel air. Et je me demande s'il y a passé chez Molière dans une des pièces, non, c'est pas les précieuses ridicules où on leur reproche de glisser les pieds. C'est une bonne question, il faudrait pousser, mais je pense que c'est entre l'affectation et le bel air. C'est vraiment. C'est pas du bon air, en tout cas, ça c'est sûr. Mais ça fait du bel.
Vous reveniez vos révérences, je ne vois pas la différence entre descendre les deux pieds,
oui,
et faire une sorte de semi-génuflexion.
Je vais vous montrer, donc la femme elle reste sur place, elle ne se déplace pas. Donc elle reste sur place, elle monte, elle descend et elle monte. Et surtout elle ne doit pas baisser la tête. La femme, si elle veut montrer plus de modestie que déjà en pliant les soulevements, elle peut baisser les yeux. C'est la seule indication, mais faire ça c'est vraiment quelque chose que certains font parce que c'est décrit à l'époque, il ne faut pas. Tandis que la révérence pour homme, là on baisse le corps et on
lit les genoux.
Elle plie les deux genoux. Ah, les genoux vont dans le.
Pas les genoux en avant.
Non. Les genoux dans le sens des orteils.
Ah.
Et tandis que là, on plie le genou derrière, et vous voyez que mon genou n'est pas plié devant, et on pose à la quatrième position.
J'ai vu Diana faire une révérence. Avec une robe courte, mais je faisais une flexion en fait.
Ah oui, mais ça c'est une révérence du 19e siècle.
C'est moderne.
C'est une révérence post-ancien régime.
Ah, d'accord.
C'est pour ça. Oui, cette révérence-là, avec le pied pointé derrière, c'est 19e. Ça apparaît au 19e, pas avant. Et donc c'est là où ça change. Et même, comme je disais, il y a des révérences où les femmes font aussi penchent le buste. Et vous comprenez pourquoi on n'aimait pas ça à l'époque, c'est bon, parce que ça détruisait la verticalité, mais aussi ça montrait tout l'intérieur du corsage. Donc, alors au 19e siècle, on n'était pas moins content, avec. C'était plus un problème.
Le corsage était
plus compliqué. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Merci. Merci.
C'est un montage que j'ai fait de plusieurs pages du traité.
Ah oui,
hein.
C'est très intéressant.
C'est celle-là, je crois.
C'est celle-là.
Et le traité se trouve en ligne, si jamais.
Vous voulez réécouter la conférence parce que...
Non, pas la conférence.